Ceci est mon corps. Voilà une parole que nous entendons tous les dimanches, une parole que les prêtres disent tous les jours, une parole qui résonne dans le monde à chaque instant. Partout dans le monde, des messes sont célébrées, et donc toute la planète est enveloppée de cette parole, qui est une parole d'amour. Voici mon corps, dans le texte de saint Paul, qui est le texte le plus ancien qui nous raconte l'institution de l'Eucharistie. La lettre aux Corinthiens était écrite avant les évangiles. Et la formule de saint Paul est d'une simplicité et d'une netteté extraordinaire. Littéralement, c'est « Voici mon corps pour vous ». On ne peut pas dire en moins de mots le don total d'une vie, d'une existence, d'une personne qui se donne. Et qui se donne pas dans le vide, mais qui se donne pour toi, pour moi, mon corps pour vous. Et le risque, évidemment, c'est qu'on entend tellement régulièrement cette parole, c'est qu'elle perd un peu sa force, sa nouveauté. Qu'est-ce qu'il nous dit à travers cette parole ? Mon corps pour vous, ma présence, par le corps, je suis là. Et au fond, le Christ ressuscité nous dit « je suis là ». Et de messe en messe, il répète cette affirmation, comme si nous avions du mal nous-mêmes à nous tenir en sa présence. Et cette présence nous est redite, redonnée, recélébrée quotidiennement. Et c'est une présence qui est en même temps une offrande. Mon corps pour vous. Et ça va être renforcé par le don du sang. Voici mon sang versé, mon sang de l'Alliance, où Jésus reprend la grande aspersion du sang symbolique que Moïse fait sur le peuple pendant le grand chemin de l'Exode, mais ce n'était qu'une annonce prophétique de ce ruissellement de sang et d'amour et de miséricorde qui, de la croix, va désormais couler sur le monde entier pour rejoindre tout cœur humain. Mon corps pour vous. Et c'est donc le grand danger et le grand malheur, c'est de nous habituer à cette parole inouïe. Et le reste, dans ces cas-là, ça devient une sorte de rituel. Un rituel mais dont on a perdu le sens. Ça devient une espèce de répétition. Et l'Eucharistie devient pour nous quelque chose. Quelque chose en plus qu'on a sous la main. Méfions-nous de ce geste de prendre l'Eucharistie. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit « prenez et mangez », sa traduction officielle. Mais c'est « recevez ». Si je vous donne quelque chose, vous n'allez pas le prendre, vous allez le recevoir. De même, quand Jésus, le soir de Pâques, souffla sur eux et dit « recevez le Saint-Esprit », c'est exactement le même verbe, c'est un verbe courant en grec. Si c'est moi qui ai l'initiative du geste, je prends, mais si c'est quelqu'un qui prend et me donne, je reçois. Et donc, logiquement, on pourrait dire « recevez et mangez ». En tout cas, garder à ce don du Christ sa valeur de donation. Je ne prends pas un cadeau, je le reçois. Et je le reçois impressionné parce que je ne m'y attends pas, parce que ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer et tout ce que je pouvais désirer. Et donc nous devons être vigilants, frères et sœurs, quand nous sommes à la messe ou quand nous sommes en présence de l'Eucharistie, de bien marquer que ce n'est pas un objet qui est là. En particulier, je pense aux personnes qui rendent ce beau service de porter la communion aux malades ou aux personnes âgées. Mais c'est un beau service, mais gardons notre cœur en éveil et en émerveillement devant ce trésor qui m'est confié et que je vais communiquer à quelqu'un qui l'attend et que le Seigneur désire rejoindre. Et de même, chaque fois que nous avons à porter, transporter l'Eucharistie, mon Dieu, que ce ne soit pas comme un objet qu'on déplace. Quoi. Derrière tout ça, au fond, je voudrais partager avec vous une interrogation fondamentale sur le sens même du corps. Jésus dit « voici mon corps ». Nous sommes dans un contexte culturel où le corps est terriblement chosifié, justement. Il devient un objet. Pensez à cette réclamation du féminisme. « Mon corps m'appartient ». Mais c'est fou, cette expression-là. Comme laisse entendre que mon corps est une chose. Alors j'ai une voiture, j'ai une bagnole, j'ai des bijoux, j'ai un corps. Mais non, le corps n'est pas un objet que tu possèdes. c'est toi-même dans ta présence réelle au monde et à Dieu et à tes frères. Le corps n'est pas une chose que tu te promènes, que tu dois supporter, que tu dois trimballer. C'est le corps, c'est la vérité de ta présence. Et en plus, cette formule est tellement menteuse, puisqu'on dit ça à propos de l'avortement, mon corps m'appartient, mais non, le corps qui est dans ton corps, c'est le corps d'un enfant. C'est pas ton corps, c'est pas un bout de chair qui serait à ta disposition. C'est une présence. Donc le corps n'est pas un objet, le corps est sacré. Avant même d'ailleurs que nous soyons dans la foi chrétienne et que nous touchions le corps du Christ, mais déjà en tant qu'être humain, le corps est sacré. Pourquoi ? Mais parce que le corps est le temple de l'âme. Le corps, c'est l'apparition de la personne. Je vous vois, vous m'écoutez, nous nous rencontrons par la médiation de notre corps. Le corps est vraiment notre présence les uns aux autres et notre présence à nous-mêmes. Le corps ne peut jamais être un objet, il est sacré, et aujourd'hui, il est terriblement massacré. Bon, il y a les massacres déjà physiques, combien de tortures, combien d'assassinats, combien d'attentats, où le corps n'est l'objet d'aucun respect, d'aucune révérence, d'aucune attention. On peut s'en débarrasser. Pensons aussi à ce déluge actuel de la pornographie, il faut dire érotisme, c'est plus poétique, paraît-il. Mais c'est quand même accablant de voir comment le corps de l'homme, et surtout de la femme, est manipulé, traité avec mépris, et affiché, une intimité à sauvegarder et un trésor à protéger. Le corps sera toujours le temple d'une présence. C'est révélateur. Quand le moment où je vais mourir, mon corps devient un cadavre. C'est-à-dire, c'est un corps. Qu'est-ce que c'est le cadavre ? C'est le corps qui n'est plus habité par une présence. Et c'est le deuil qu'on doit faire. On doit accepter que, comme on dit, il n'est plus là. La personne n'est plus là. Donc, le corps devient une enveloppe vide. Il n'est plus un corps. C'est avec crainte et tremblement que nous devrions nous approcher du corps. Non seulement du corps du Christ, mais du corps de tout homme et de toute femme. Je pense à tous ceux qui ont une profession dans la médecine et qui touche le corps, qui soigne le corps. Ça peut être parfois des rythmes de travail épuisants, etc. Mais c'est quand même très beau de voir, en général, avec quelle délicatesse, quel tact. Tact est un mot très beau, c'est toucher. C'est grâce du toucher juste pour la personne que je rencontre à travers son corps et dont je veux honorer et soigner le corps. Mais c'est vrai aussi de tous nos contacts, comme on dit très bien, nos contacts dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, dans la vie amicale. Comment, dans la liturgie chrétienne aujourd'hui, avant la communion, il y a ce beau geste de se donner la paix, c'est-à-dire de nous toucher mutuellement, corporellement. Mais ce n'est pas simplement « bonjour, comment ça va ?» C'est vraiment honorer le mystère de la présence qui m'entoure, de ces présences à droite et à gauche. On me tourne vers cette personne, et en lui prenant les mains ou en l'embrassant, ce n'est pas simplement un geste rituel, c'est vraiment reconnaître sa dignité d'enfant de Dieu, de temple de l'Esprit-Saint et de membre du corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ et nous touchons le Christ quand nous nous touchons les uns les autres avec justesse et charité. Je pense, permettez-moi aussi de faire allusion à la vie conjugale. Avec crainte et tremblement, l'homme et la femme qui s'aiment vont s'approcher l'un de l'autre et se serrer l'un contre l'autre, comme cela est grand et beau, mais comme cela doit être réservé à l'acte, à la vie conjugale. Sinon, ces splendides rites de l'étreinte nuptiale deviennent une espèce de manipulation dévergondée, répétitive et anonyme. Ça peut être un ou l'autre, ça peut être une ou l'autre. Et cela, c'est des modes de vie qui, hélas, se sont terriblement développés, en particulier chez les jeunes, comme il faut leur dire que leur vocation, si c'est le mariage, ce sera d'accueillir le corps de l'autre un jour et de livrer leur corps pour toujours. Et cela, on ne prépare pas cela avec des expériences amoureuses précaires et provisoires qui ne font qu'apprendre le divorce, ça n'apprend pas le mariage, ça n'apprend pas l'union, ça apprend la séparation. Alors nous allons donc célébrer cette messe qui célèbre la messe en la fête du Saint-Sacrement du Christ, du corps et du sang du Christ. Nous allons de nouveau le contempler, il vient à notre rencontre, donc de nouveau le recevoir. Je ne suis pas digne de te recevoir, exactement, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pas moi qui ai le premier rôle et qui dit « Viens Seigneur ». C'est le Seigneur qui frappe à la porte et qui dit « Est-ce que je peux venir ?» Et là, l'adoration de la Sainte Eucharistie est une école que l'Esprit-Saint a introduite dans la vie de l'Église et qu'il faut, je pense, accueillir avec attention et avec du répondant. Parce que adorer le Christ pendant la messe, en particulier pendant la prière eucharistique, qu'on appelle ce moment qu'on appelle la consécration, c'est le moment où le Christ se consacre de nouveau. C'est son unique amour, son éternel amour, mais qui, aujourd'hui, ici et maintenant, nous est redonné, il se redonne. Voilà. Il actualise ce don qu'il a fait une fois pour toutes. C'est un don de chaque jour, de chaque instant. Et donc, mettons-nous bien dans une attitude d'adoration pendant la prière eucharistique et le moment où le prêtre renouvelle les gestes et les paroles du Seigneur. « Voici mon corps pour vous. » Mais au moment de la communion aussi, c'est important que d'une manière ou d'une autre, par un geste ou un autre, vous marquiez que vous ne recevez pas quelque chose sur les lèvres ou sur au creux de la main, mais vous recevez quelqu'un. Il faut donc accompagner votre communion d'un mouvement au moins du cœur, mais peut-être du corps, un mouvement d'adoration et de vénération du don de Dieu qui est le Christ lui-même. Et c'est pour fortifier en nous cette adoration pleine d'amour que l'Esprit-Saint nous a suggéré d'avoir des moments où, en dehors de la messe, nous nous mettons en présence de celui qui est présent dans l'Eucharistie. Et nous restons peut-être quelques minutes, mais peut-être aussi un long moment, dans ce cœur à cœur, ce corps à corps, ce regard à regard échangé. Et c'est ainsi que le Christ va vivre davantage en nous, que de plus en plus nous serons le temple de sa présence. Et notre présence sera comme le signe de sa présence à lui. Et là, je reviens à cette réflexion extraordinaire de l'Évangile. Les apôtres disent à Jésus, ils n'ont plus rien à manger, il faut les renvoyer. Et Jésus répond, non, donnez-leur vous-même à manger. Mais regarde, on n'a que 5 pains de poisson. Ce n'est pas le problème, il faut que vous donniez. Et il y a une grâce du don, il y a une fécondité du don, et au moment où les apôtres, par obéissance au Christ, vont donner, le pain va se multiplier. Il prononce la bénédiction, rompit les pains, les donna à ses disciples pour qu'il les distribue à la foule. Mais ça, c'est le mystère même de l'Église, frères et sœurs. Au fond, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train de célébrer l'Eucharistie pour que le Christ puisse se donner de nouveau à nous et que nous puissions le recevoir de nouveau. Mais s'il vient à nous, s'il vient habiter notre pauvreté, c'est pour habiter le monde. Et donc, donnez-leur vous-même à manger. Vous mangez la chair précieuse, nourrissante, merveilleuse du Christ pour pouvoir nourrir le monde de sa présence. C'est-à-dire les aider, ceux qui ne viennent pas à cette célébration eucharistique, les aider à y venir un jour. Mais même en attendant, même s'ils ne viennent pas à la messe, qu'ils soient touchés d'une manière ou d'une autre, par cet amour du Christ qui se donne pour moi et qui se donne pour tous, qui se donne pour toi. Amen.